Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Dans l'épisode du jour, je suis avec Camille, qui est fondatrice du site Prépisport depuis maintenant 5 ans. Prépisport, c'est le site spécialisé dans l'équipement pour équitation. Donc si vous êtes cavalier, vous êtes passionné, allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir, ça vaut le détour. Camille me pose la question suivante. Comment faire pour sortir son épingle du jeu face à des géants du web, d'autant plus lorsque l'utilisateur classique est nourri de nos jours, on le sait bien, par des codes promo, les commissions dérisoires et l'instantanéité. Concrètement, comment lutter contre des géants comme Amazon ou Decathlon dans le cas de Camille, lorsque l'on est une petite marque avec peu de moyens. David contre Goliath. Je peux vous dire que ça me connaît parce que quand on a lancé Gémio avec mon associé en 2011, on n'avait pas d'argent, pas d'expérience et pas de connaissance du monde de la joaillerie. Face à des mastodontes comme Cartier ou Tiffany's, ça peut faire mal et puis surtout, ça peut paraître perdu d'avance. Pourtant, nombreux sont les histoires de jeunes marques qui ont réussi à tirer parti de leur petitesse par rapport à des géants. C'est exactement ce que doit faire Camille. Assumer. Assumer le fait qu'elle est ultra spécialisée. Jouer la niche à fond, devenir la référence dans son domaine, créer une communauté. Elle peut pas se battre sur les remises ou sur la pub à gogo sur Instagram, mais en revanche, elle peut se battre sur la qualité et la personnalisation de son expérience et de ses produits. Donc dans cette leçon, nous avons abordé en détail des exemples de marques qui avaient réussi à prouver que l'on peut détrôner des géants du web lorsque l'on s'attaque à une niche bien spécifique. Dans ce cas, je vous préviens, faut pas faire les choses à moitié, sinon vous allez tomber à côté. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin.
Allô Camille ?
Oui, allô Pauline.
Salut Camille, bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour cette leçon du gratin et j'ai trouvé ta question très intéressante en plus. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis me parler justement de ta problématique du moment ?
Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Camille, j'ai monté une société il y a 5 ans donc, qui s'appelle Prépisport et... Pour expliquer très brièvement, c'est le Vinted de l'équitation. Donc, acheteurs et vendeurs sont sur la plateforme, passent commandes, etc. Donc, ça fait 5 ans que ça existe. Il y a plus de 60 000 utilisateurs. On vend en Europe. Donc, je suis vraiment ravie de tous ces développements. Mais même au bout de 5 ans, on a encore des problématiques. Alors, moi, évidemment, j'ai des grosses problématiques de trésorerie parce que c'est que de l'investissement personnel depuis le début.
Wow.
Et surtout, en fait, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est de réussir à me démarquer justement face à des Vinted, à des Leboncoin, à des Amazon. Alors évidemment, je ne me compare pas à eux parce que je suis vraiment rikiki par rapport à ces mastodontes, mais je trouve qu'on perd un petit peu aujourd'hui la notion des tarifs en tant qu'utilisateur. Et moi, ma problématique, c'est Vinted, ils prennent une commission qui est très très faible. Ouais. Parce qu'ils ont été abreuvés par des levées de fonds et Amazon, ils ont vraiment démocratisé le fait que la livraison soit toujours gratuite. Et donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est quels pourraient être tes conseils quand on est une petite entreprise comme la mienne en France et qu'on essaye de faire au mieux, mais il y a un moment, on a aussi des problématiques financières.
Bien sûr. Bah, alors, j'ai encore des questions pour toi. Déjà, la première, c'est quoi ta grande différenciation? En fait, la raison pour laquelle, justement, quelqu'un, enfin, il y a ces gros concurrents qui ont plein de sous, énormément de moyens et de possibilités. Pourquoi est-ce que toi, tu fais des choses différemment? Qu'est-ce qui fait, justement, que tu fais des choses différemment?
Par rapport à Vinted, déjà, je suis spécialisée sur l'équitation, qui est quand même un sport un peu particulier. C'est vrai que de vendre, une chemise Zara et à côté de vendre une selle d'équitation, je trouve que c'est pas forcément cohérent. Nous, on a vraiment cette partie très spécialisée sur la partie équitation. On a des retours qui sont possibles, on a des essais également. C'est vrai que quand on achète une selle, il faut savoir que le budget moyen en occasion d'une selle, c'est autour de 1 200 €. C'est quand même pas négligeable.
Wow.
Du coup, le fait de faire bénéficier l'acheteur d'un essai de 7 jours, ça, c'est quand même méga pertinent. Enfin, moi, je le vois en tant qu'acheteur, j'aurais été ravie que ça existe avant. Donc, voilà, la vraie grosse différence, c'est le fait d'être spécialisé, le fait d'apporter des choses comme l'essai. Et nous, alors ça, c'est un petit peu une problématique actuelle, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait payer le vendeur. On ne fait pas payer l'acheteur. La commission, elle est que sur le vendeur. Alors, okay. Vinted, c'est au moment où on ajoute à son panier, finalement, notre produit qui était à 10 euros, il est à 13 avec les frais de port et finalement, il est à 15 avec les commissions.
Bah, écoute, alors déjà la bonne nouvelle, c'est que je pense que le fait que tu sois, je vais pas dire une niche parce que c'est pas le cas, l'équitation c'est quand même un secteur important, mais néanmoins tu vois que tu t'adresses pas à tout et n'importe quoi, que tu aies vraiment choisi d'avoir quand même un angle, on va dire, ou un axe assez différencié. Ça, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que quand tu regardes toutes les success stories de boîtes qui justement ont réussi à s'imposer par rapport à des grands, des David contre Goliath, globalement, c'est toujours la même chose. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça fait 5 ans que tu arrives à faire ça. C'est que globalement, tu commences par t'adresser à une niche et tu l'adresses, mais vraiment dans ses moindres détails et pour ses moindres désirs. Et donc, probablement qu'en fait, la réponse, que je connais pas dans les détails à ta question, mais c'est de continuer à vraiment t'adresser à cette niche, mais de manière extrêmement différenciée et avec probablement des valeurs ajoutées qui n'existent pas, si tu veux, chez tes concurrents confrères. Je te donne un exemple. Un épisode de podcast que j'ai fait qui m'avait vachement marqué, que j'ai trouvé hyper bien, c'était avec le fondateur de Alteryx. Alteryx, c'est finalement quelque chose qui a été similaire à ce que tu as pu faire, parce que lui, si tu veux, il s'est juste dit, je vais vendre dans un premier temps des vélos, notamment tout ce qui était BMX sur Internet. Et si tu veux, dans l'absolu, là où c'était assez brillant, c'est qu'il y avait personne qui le faisait bien. Évidemment, assez rapidement, Amazon et tous les GoSport, etc., sont mis à faire. Mais globalement, ceux qui étaient vraiment spécialisés au niveau du monde du vélo sur Internet, où il y avait absolument tous les produits, donc tu avais un super gros assortiment, un très très gros catalogue, si je résume, des problématiques de livraison qui étaient très particulières pour le vélo et donc qui étaient adaptées avec leur business model. C'est peut-être ce que justement avec cet essayage, mais globalement ils avaient fait tout leur business model, toute leur plateforme de marque, vraiment tout leur univers était centré autour du monde du vélo, et ça a été si tu veux un succès absolument fulgurant. La boîte a été rachetée pour très forte somme par Decathlon, parce que c'était vraiment devenu les spécialistes tout simplement la distribution sur Internet, dans un premier temps de vélo, et puis dans le temps ensuite ils ont commencé à faire du vélo de route. D'abord c'était même plus niche que ça, c'était le BMX, et ensuite ils ont commencé à faire du vélo de route, etc. Et donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que je pense que toi t'as fait la bonne chose, qui est de concentrer sur une niche qui est l'équitation. Je pense que maintenant il faut que tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, et je suis pas sûre que ça soit le cas encore aujourd'hui. Il faut que t'assumes pleinement que en fait ta vie, ton œuvre et tout ce que vous allez faire, c'est à 100% l'équitation, et donc que tes contenus tournent évidemment que autour de ça, que tes produits, tes services évidemment tournent que autour de ça, que ta livraison tourne autour de ça, que même je sais rien, le nom de ton service client fasse référence à ça, pour que toute personne qui cherche de l'équitation, en gros, ce soit, tu deviennes une référence tout simplement à la matière. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être évident et c'est peut-être ce que tu essayes de faire, mais j'ai la sensation dans ce que tu me dis que, comme justement tu te compares à des gros mastodontes, en fait, tu vas pas pouvoir gagner, c'est évident, sur combien d'argent tu vas dépenser tous les mois en web marketing, sur combien d'employés tu vas avoir dans ta boîte, sur probablement même les délais de livraison. Il y a plein de choses en fait sur lesquelles tu vas pas pouvoir gagner. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que eux, comme ils sont pas ils sont trop éparpillés sur tout plein de domaines. En fait, tu vas pouvoir gagner par contre sur d'autres choses si t'es très spécifique. Donc, j'ai pas la réponse exactement parce que je connais pas suffisamment le domaine de l'équitation, mais on pourrait y réfléchir ensemble. Mais je suis sûre qu'il y a des produits, qu'il y a des services, qu'il y a tout un tas de choses que, en fait, aujourd'hui, ces marques, ces entreprises, ces distributeurs, si tu veux, ne proposent pas, tout simplement parce qu'en fait, comme tu veux, justement, avec une bonne équipe de l'éducation, alors pour un peu, mais comme tu disais, chez Vinted, ils vendent aussi des t-shirts, et chez Amazon, il y a aussi des ordinateurs. Donc, que toi, par contre, tu deviennes experte et référente dans le domaine, ou en tout cas que tu l'étais certainement déjà, mais que tu me montres plus, je pense que c'est absolument indispensable si tu veux réussir, justement, à garder ta place face à ces gens-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez assez intéressant, c'est quand tu réfléchis à de belles success stories, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de boîtes comme la tienne qui étaient très spécialisées sur un secteur, on va dire niche. Ça peut être le cas des BMX avec Alteryx, ça peut être le cas, tu vois, par exemple, il y a plein de boîtes dans le secteur du vin, les Wine & Co, etc. Ça peut être, je pense, un autre exemple, c'était Zappos avec les chaussures. Et en fait, ça, ce sont des entreprises qui, très souvent, se sont fait racheter justement par les distributeurs, qui se sont rendus compte que, en fait, ils n'allaient jamais être aussi bons, jamais être aussi experts dans un domaine que ces personnes-là. Et donc, plutôt que de se lancer et de le faire à leur tour, en gros, ils rachètent ces distributeurs. Je ne sais pas si c'est ton objectif, et par ailleurs, ça peut mettre un peu de temps. Ça peut mettre un peu de temps, ça peut pas un an. Mais si tu deviens vraiment, on va dire, et je pense que ça peut être un très bel objectif d'ailleurs d'entreprise, devenir vraiment la référente en France ou en Europe, peu importe, de toute personne qui veut acheter de l'équitation, d'ailleurs online ou offline, peu importe, de matériel d'équitation, en fait, si tu veux, c'est une super plateforme de marque, c'est un super insight, et du coup, mais t'as énormément de choses à faire, probablement, pour vraiment que ça s'incarne, si tu veux, et que ça soit perçu comme légitime, et pas juste, si tu veux, comme un vœu pieux. C'est-à-dire que il y a probablement une réalité, c'est que oui, t'as les produits, mais au-delà d'avoir les produits, déjà, il n'est pas évident que t'aies tous les produits qui sont importants pour de l'équitation. Et puis, sans doute, au niveau, je te disais, des services, au niveau du discours, au niveau des contenus que tu crées, je suis sûre que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Ah oui, bah complètement. Enfin, aujourd'hui, en fait, on a quand même le blog qui est à côté. On essaye vraiment de mettre en avant, justement, et de créer toute cette atmosphère que des très grandes vont pas réussir à créer. Alors, évidemment, en restant à notre échelle, bien sûr, mais on essaye vraiment de créer ça. Là, on a un catalogue qui est à peu près à plus de 45 000 produits mis en ligne, donc c'est assez pertinent, mais évidemment on peut toujours mieux faire, et donc c'est ce que j'essaye de trouver, soit en allant dénicher de nouveaux vendeurs, mais également en regardant quel autre axe on pourrait développer pour justement devenir vraiment, comme tu le dis, la référence. Et je vois, à un moment, on avait bien réussi à bien référencer nos images sur le site. Et moi, c'est ce qui m'a permis, enfin, aujourd'hui, donc à N+5, à n'avoir jamais payé 1 € de Google AdWords et à ressortir dans les trois meilleures recherches lorsqu'on a une recherche évidemment très précise. Mais voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est là où il faut que je travaille, évidemment. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, mais ça fait partie des choses à développer et à mettre peut-être plus l'accent sur ça, comme tu le dis, pour vraiment devenir l'incontournable quand on a une recherche sur l'équitation.
Ouais, exactement. Et dites-moi aujourd'hui, dis-moi Camille, vous êtes combien de personnes dans la boîte actuellement ?
Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. moi, je travaille pas mal en externalisant. Oui. À un moment, on est monté jusqu'à 4 à 5 personnes. Et finalement, alors après, c'était un choix personnel. Mais là, j'ai externalisé la partie technique avec une société qui s'en charge très bien parce qu'ils sont spécialisés sur les marketplaces. Et puis après, je travaille en freelance avec des personnes qui ont été d'abord chez Prépi avant, en stage ou en salarié, et qui maintenant travaillent en freelance sur la partie communication, rédaction de contenu. Et finalement, on arrive à s'articuler de cette manière-là. Voilà. Donc pour le moment, on va dire que la vraie personne active, c'est moi aujourd'hui. Donc ça fait pas mal de choses à faire.
C'est clair. Bah, justement, en fait, c'est pour ça, parce que, alors, je le savais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, et du coup, c'est peut-être le conseil que je peux te donner là-dessus, c'est que, mine de rien, là, t'es contre des entreprises qui sont énormes, même si elles sont, tu vas être plus agile et tu vas être très concentré sur ce que t'as à faire, donc tu vas forcément pouvoir construire plus de choses, c'est super que. Mais en revanche, il faut que tu t'imagines quand même que ça, c'est des gens qui sont des armées d'employés, qui sont souvent très motivés, très bons, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, que tu arrives à bien t'entourer, alors ça peut être avec des freelances, honnêtement, bosser avec des freelances, c'est souvent top, mais ça peut être aussi avec des gens en interne, à terme. Je pense que c'est absolument fondamental, parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir faire tout toute seule. Et en fait, l'ambition que tu as de devenir la référence, si tu veux, dans le monde de l'équitation, ce que je pense être le cas, et à mon avis, moi, ça me fait rêver, je trouve que c'est un super beau projet. Je crains qu'en fait, il soit strictement impossible que tu le fasses seule.
Bien sûr.
Et donc ça, en fait, il faut que tu le réalises, c'est pas grave, mais ça veut dire que, au contraire, c'est plutôt une opportunité, ça veut dire que t'en as énormément sous le pied. C'est juste qu'il faut que tu vois comment est-ce que tu vas réussir à t'organiser. Donc, peut-être avec des freelances dans un premier temps, peut-être en me disant, bah non, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une personne à temps plein qui crée des contenus pour moi, sur tous les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, le monde de l'équitation, il se passe énormément de choses, et que si tu veux être bien placé en référencement naturel, mais même juste avoir une communauté, si tu veux, oui, ça, je pense que ça serait le nerf de la guerre pour un métier, entre guillemets, de niche comme toi, avec des passionnés, avoir des vrais contenus réguliers, hyper pertinents, hyper spécifiques, je suis sûre qu'en fait, ça peut te catapulter en termes de chiffre d'affaires beaucoup plus haut. Et ça, malheureusement, si t'es seul, c'est impossible, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on se met une limite tout seul. Après, c'est vrai que, comme je disais, moi, j'ai pas été financée, j'ai pas fait de levée de fonds, et donc, on avance petit à petit. Ce qui est pas forcément, je suis pas en train de critiquer ni l'un ni l'autre. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai mené jusqu'à présent. Et c'est vrai que, l'embauche d'une nouvelle personne, ce qui a pu être le cas à certains moments avant dans l'entreprise, ça peut être bloquant, on va dire, financièrement. Enfin, en tout cas, moi, je suis bloquée aujourd'hui financièrement. Et c'est ça qui fait aussi que, on arrive à un moment où je suis un petit peu plafonnée, parce qu'évidemment, d'avoir deux bras en plus et un cerveau en plus en état de fonctionnement, ça serait que bénéfique.
C'est pour ça que je pense que la solution freelance, c'est des personnes expertes en général qui sont très bonnes dans ce qu'elles font, donc ça peut être une très bonne solution. C'est juste que, objectivement, ça va être à terme plus cher si jamais cette personne travaille beaucoup pour toi que d'avoir quelqu'un en interne. Et puis surtout, malgré tout, c'est quelqu'un qui ne pourra pas être à temps plein parce qu'elle va avoir d'autres dossiers, etc. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose si jamais tu as vraiment en fait, la nécessité d'un poste à temps plein. Donc, mais ça peut être une bonne notion à court terme. Le stage aussi, sans du tout dire qu'il faut exploiter ses stagiaires, etc. Mais à l'inverse, au contraire, l'opportunité de travailler dans une petite boîte pour un stagiaire, c'est génial. Moi-même, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je pense que bon, ce qui a fait le changement de ma carrière, c'est quand j'ai envoyé une candidature spontanée, je me rappelle, à un entrepreneur en disant « J'aimerais être votre bras droit, je veux tout apprendre, tout autant apprendre à sortir les poubelles avec vous que faire les bétons, que tu vois, faire le catalogue produit et tout. » Et j'ai tellement appris, si tu veux, que ben, finalement, je leur serais éternellement redevable. Et ça, ben, toi, c'est de leur embarque parce que c'est quelqu'un qui va être sincèrement intéressé, qui va avoir une grande valeur ajoutée. Alors, tu vas devoir former, hein, c'est clair.
Bien sûr, bien sûr.
Mais par contre, qui va pouvoir te donner beaucoup de temps et d'énergie. Et puis pourquoi pas ensuite à terme embaucher, tu vois, cette personne. Mais aussi, cette personne-là va avoir un super retour, si tu veux, sur son éducation, tu vois, si je puis dire. Donc, ça peut être une option aussi un peu low cost. Là, je te donne les options low cost.
Oui, oui.
Et puis aussi, il n'y a pas que du job à temps plein, tu vois. Tu peux envisager quelqu'un en 3 jours par semaine, 2 jours par semaine, ça peut être possible aussi. Donc, en fait, je pense qu'il faut un peu s'ouvrir les chakras. Moi, ce qui est certain, c'est que si tu veux passer, entre guillemets, du statut de j'ai ma boîte, je suis entrepreneur et globalement ça se passe bien, mais je suis quand même un peu débordée, je suis sur tous les fronts et j'arrive pas à faire développer mon activité parce qu'en fait je n'ai pas assez de temps et dans une journée j'ai que 24 heures et déjà je passe beaucoup de temps.
C'est bien pris.
Au statut de dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire j'ai une boîte qui entre guillemets tourne sans moi parce que j'ai réussi à constituer une équipe sur laquelle je peux dépendre et qui porte le projet tout autant que moi, ce qui est hyper précieux et super valorisant et super gratifiant parce que bah, globalement, tu as des personnes en qui tu as confiance et qui
t'aiment.
Enfin, en fait, c'est comme si tu avais en fait, un enfant, tu vois, avant qu'il au début, tu peux tout faire avec lui, puis à terme, il marche tout seul. Et je pense que pour un parent, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quoi. C'est finalement le moment où cet enfant devient indépendant. Bah, c'est un peu la même chose. Hein. Tu dois être valorisant pour les collaborateurs. Et du coup, je pense que ça, c'est le mindset que tu dois adopter parce que si tu veux, et je reviens à l'objectif, être référente dans le secteur de l'éducation, bah, en fait, sincèrement, tu ne vas pas pouvoir y arriver tout seul. Et c'est pour ça que je te posais cette question, c'est que je pense que maintenant, l'étape d'après, toi, c'est de se dire, bah, j'ai tout ça à faire. Comment est-ce que je m'organise? Et je pense qu'il faut que tu réfléchisses, toi, à quels moyens tu es prête à y mettre. Donc, financièrement, peut-être qu'il va falloir que tu commences à envisager des options de financement, du prêt, peut-être un peu une petite levée de fonds pour ta famille, je sais pas. À toi d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je sens que tu as beaucoup d'ambition. Et là, tu arrives à un moment où, si tu veux lui donner, tu vois, les ressources nécessaires.
C'est ça.
Et un second souffle, en fait, il faut que tu changes quelque chose.
Complètement. Oui, complètement. Je sais que je suis bloquée. À ce moment-là, bon, alors j'avoue que les stagiaires, j'en ai enfin un peu abusé. Après, ça a été vraiment top, que des superbes expériences, de superbes rencontres. Et comme tu disais, la chance que j'ai, c'est d'être sur un secteur très spécialisé, enfin très passionné de passion. Et là, pour le petit exemple, j'ai quand même eu une personne au mois de janvier qui est venue, qui a fait le trajet de Belgique avec son cheval pour venir travailler chez moi. Et ça, c'était une reconnaissance de malade. Ça, c'est super, quoi. Ça, c'est des belles choses aussi de l'envers du décor, c'est quand même ça. Et là, on a des top bureaux au sein d'écuries qui sont magnifiques. Et là, j'ai plein de personnes, enfin, je reçois des candidatures spontanées. Et ça, j'ai l'impression d'avoir aussi passé un step. Alors évidemment, comme tu le dis, c'est aussi des choses temporaires que j'entends tout à fait, bien sûr. Et le but, c'est de pouvoir transformer ces postes-là sur des postes à plus long terme, soit en mi-temps, soit en temps complet. Mais c'est vrai que la chance que j'ai en étant sur la partie, enfin, sur une section très particulière et très passion, c'est que les gens sont capables de se déplacer pour venir travailler chez Prépi parce qu'ils vont travailler dans une atmosphère de passion et que c'est plutôt sympa. Évidemment, le but, c'est qu'on est sorti d'école il n'y a pas non plus si longtemps. Et moi, j'ai adoré les stages pour lesquels j'ai appris plein de choses en étant multifacette. Et comme tu dis, bon, évidemment, le moment où tu sors les poubelles, c'est peut-être pas le plus passionnant, mais en attendant, tu apprends tellement à faire des colis, aller sur un événement et à relancer des clients, que c'est ça aussi qui apporte la connaissance et ce qui fait grandir aussi tes stagiaires. Et moi, je trouve ça génial. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas être capable de faire et que j'ai appris en ayant la boîte depuis le début. J'ai trouvé ça top d'avoir des équipes.
C'est d'autant mieux si t'aimes ça, parce que du coup, je pense que c'est clairement l'avenir pour toi. Et donc, en fait, si on résume, je peux te dire, c'est que par rapport à ta question initiale, qui est concrètement, comment faire quand on est David contre Goliath, bah, en fait, continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire t'adresser à une niche, mais fais-le à 400%, encore probablement beaucoup plus que tu fais, et en permanence, pose-toi la question à chaque fois que tu prends une décision, est-ce que ça, c'est ce que doit faire la marque référente pour l'équipement d'équitation? Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire en plus? Comment est-ce que je peux mieux servir mes clients dans ce domaine-là? Comment est-ce que je peux encore plus parler, si tu veux, à un public de passionnés? Je pense que ça, c'est vraiment la question qu'il faut que tu poses en permanence et qui doit t'habiter. Et ensuite, une fois que tu as, entre guillemets, un peu réfléchi à cette question et que tu sais globalement bah, que tu veux des contenus, que tu veux plus de services, etc., bah, faut que tu réfléchisses, ok, concrètement, c'est quoi les ressources qu'il me faut, les ressources humaines. Et ça, ensuite, c'est ton travail d'entrepreneur de dire, bah, les ressources humaines, c'est que bah, il va probablement falloir que j'ai quelqu'un qui dit à temps plein ou à 3 jours par semaine ou à 2 jours par semaine, à toi de faire des trade-offs aussi avec ton budget, mais sur la création de contenu, il faut que j'ai quelqu'un peut-être qui s'occupe encore plus, je sais pas, de travailler sur le trouver plus de produits, donc avoir un assortiment de produits encore plus large. Et donc ça, si tu veux, ça va te permettre de savoir ben quelle est l'équipe que tu dois constituer. Après, une fois que tu sauras ça, ben à toi de réfléchir. Donc ça fait beaucoup de réflexion, tu vas me dire, mais c'est normal. Réfléchir, ben, comment tu le finances? Est-ce que tu le finances parce que pour l'instant c'est un peu du temporaire et donc ben, tu travailles avec des freelances, avec des stagiaires, etc. Ou est-ce qu'en fait c'est plutôt un travail un peu plus long terme maintenant que tu veux mettre en place? Et auquel cas, ben tu peux réfléchir éventuellement, je te dis, à du financement externe. Sans pour autant perdre si tu veux ton bébé, mais juste te dire non, il me faut 100 000 euros pour pouvoir être sereine pendant un an. Bon, bah, ça se trouve si tu veux.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu difficile quand j'avais fait l'exercice justement pendant pas mal de temps d'essayer de lever des fonds. Je trouvais que, en tout cas, moi, c'est pas là où je suis forte. Enfin, vraiment, je sais que ça, c'est vraiment pas mon domaine pour le coup, parce que j'ai pas réussi. Alors, je sais pas si c'était à transmettre vraiment tout ce que je voulais créer avec la société, mais j'arrivais pas à convaincre en fait face à moi. Ou soit, je pense aussi parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas forcément le marché. Et ce que je peux tout à fait entendre, quand on connaît pas le marché, on peut pas se rendre compte des dépenses et de l'énorme marché que c'est, parce que c'est la 3e fédération en France. Mais je pense que là, c'était plus un travail sur moi-même à effectuer pour justement passer ce cap des problèmes financiers. Et comme tu as très justement dit, voilà, je sais que le système fonctionne, j'ai quand même des clients récurrents, je rends du cash quand même tous les mois. Maintenant, voilà, le problème, c'est plutôt s'entourer. Et pour s'entourer, moi, je gagne pas suffisamment pour pouvoir payer toute une équipe, ni même juste 2 autres personnes. Donc, voilà, la problématique financière est là.
Bah, écoute, alors après, on va pas faire un podcast entier sur la levée de fonds, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les ressources financières, c'est pas forcément celles qu'on peut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te dises nécessairement que t'es obligé d'aller voir un fonds d'investissement pour pouvoir lever 1 million d'euros. Je pense que c'est pas le sujet. Et que par ailleurs, aujourd'hui, comme ta boîte, elle a 5 ans d'âge, je vais être honnête avec toi, c'est pas toi qui les intéresse aujourd'hui. Ils cherchent des startups qui viennent connaître. Donc en fait, tu vas juste perdre du temps. En revanche, parler à des personnes qui connaissent ton secteur ou pourquoi pas des personnes de ton entourage bienveillante qui croient en ton projet parce qu'ils voient à quel point tu te défonces, ça peut avoir de la valeur. Et tu n'es pas du tout obligé de faire une levée de fonds avec des professionnels de l'investissement. Tu peux tout à fait déterminer que tu vas faire une levée de fonds une fois de plus 100 000 euros, 200 000 euros avec des gens de ton entourage, tu vois. Et ce qui te permettra, je pense, d'avoir un petit peu avoir un petit peu plus de temps et puis de ressources. Mais sans non plus passer 2 ans, si tu veux, à essayer de lever des fonds sur quelque chose, en plus un projet qui n'intéresse pas forcément les investisseurs.
Bien sûr, tout à fait.
Bon, bah écoute, du coup, un peu de pain sur la planche, je vois, mais des beaux projets aussi en perspective, ça fait plaisir. Moi, le conseil que je peux donner, voilà, c'est vraiment repars de l'ambition, remets ça bien à plat, et une fois que tu l'as vraiment déterminé, quantifié, et ben ensuite tu dis ok, c'est quoi les ressources qu'il me faut, combien d'argent du coup concrètement, comment je vais le faire avec combien d'argent, et ensuite sincèrement les ressources, si ça reste raisonnable, je suis sûre que tu as les moyens de les trouver. Je suis sûre que tu as les moyens de les trouver dans ton entourage, via ton réseau, via peut-être tes clients, du crowdfunding. Enfin sincèrement, aujourd'hui il y a quand même énormément d'options et je pense que ça peut te faire considérablement accélérer.
Complètement. Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils et ces retours. C'est vraiment intéressant et je te remercie d'avoir pris le temps aussi de me répondre et de faire cet entretien.
Eh bah écoute, avec grand plaisir. En tout cas, tiens-moi au courant. Et puis donc, bah, je te dis certainement à bientôt.
Oui, merci beaucoup. Bonne journée.
Salut Camille.
Salut.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.